Des temps dans le livre de la Genèse, nous arrivons après ce rapide survol de ce thème qui parcourt tout ce livre, à la fois livre des commencements et livre de la fin. Nous arrivons maintenant à la fin de ce livre. Et je voudrais que ce soir, nous puissions lire plusieurs versets. Tout d'abord, dans le chapitre 15 du livre de la Genèse, ou plutôt, nous lisons à partir du verset 13. Nous avons lu déjà ce texte, mais nous allons le relire. Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, Sache que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Araméens aura atteint son comble. Et nous lisons un deuxième texte, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 46 et au verset 1er. Genèse 46 et verset 1er. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes et lui dit, Jacob, Jacob. Il répondit, Me voici. Dieu dit, Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, et c'est moi qui t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Et enfin, un dernier texte dans le chapitre 37 du livre de la Genèse. Joseph, verset 18, Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Et avant qu'ils se soient approchés d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, Voici le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons que deviendront ses rêves. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, Nous ne nous en prenons pas à sa vie. Ruben ajouta, Ne répandez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains afin de le ramener à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assurent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ishmaélites venant de Gilad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de laudanum qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Israélites, ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Puis, au passage des marchands madianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Chapitre 39, verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte. L'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à son comble. Et cet élément est la raison pour laquelle le peuple d'Israël va être esclave en Égypte pendant 400 ans. Quelle relation, quel rapport existe-t-il entre l'existence d'Israël, sa descente en Égypte et le péché des Amoréens, c'est-à-dire des Cananéens? Tout simplement que le jugement de ces derniers est la condition même de l'existence d'Israël et de son établissement dans le pays promis. Lorsque nous regardons ce texte, et que nous voyons que Dieu vient de promettre au peuple d'Israël, à Abraham et à sa descendance, le peuple d'Israël, la possession du pays sur lequel il se trouve. Et il le fait, nous avons vu, par cette alliance entre les animaux partagés, ça veut dire qu'il s'engage solennellement vis-à-vis d'Abraham, d'un pacte qui ne peut pas être révoqué. Et quand il vient d'affirmer cette promesse, il dit oui, mais avant, ce peuple sera captif pendant 400 ans dans un pays qui ne lui appartiendra pas. Et là, c'est quelque chose qui est très surprenant. 400 ans d'esclavage. Mais c'est terrible. 4 siècles d'esclavage. Et la question qui se pose, mais ça commence mal cette histoire. Dieu vient de promettre à Abraham le pays promis, et voilà, il annonce, mais tes descendants ne le posséderont que pendant qu'après 400 ans d'esclavage. Qu'est-ce qu'Israël a fait pour mériter cela? Réponse, rien. Les autres exils, on peut trouver des explications. En Babylonie, Israël a été dispersé parce qu'ils n'ont pas écouté les commandements de Dieu. L'exil actuel, l'exil d'Édom, on peut penser que c'est parce que Israël n'a pas reçu le message chrétien, l'évangile. Mais au moment de la descente en Égypte, qu'est-ce qu'Israël avait fait? Rien. C'est une souffrance injuste, imméritée. Seigneur, comment tu peux faire une chose pareille? Et la réponse est celle que nous avons lue, parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à son comble. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, nous avons une vérité importante que la Bible nous communique. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et parce que Dieu veut ce salut du pécheur, il lui laisse du temps pour qu'il puisse se repentir. Vous trouvez ça, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, où il est question de cette femme, fausse prophétesse, que ce livre appelle Jézabel. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, ou si c'est en relation avec la Jézabel de l'époque des rois. Peu importe. Cette femme, donc, était une femme perverse. Et le Seigneur dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Dieu donne du temps aux pécheurs. Vous trouvez ça aussi dans le premier chapitre de l'épître de Paul aux Romains, quand il déclare aux pécheurs impénitents, est-ce que tu t'imagines que tu échapperas à ce juste jugement de Dieu? Est-ce que tu ne te rends pas compte que la patience de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de juger le pécheur, avant d'exercer ses châtiments contre lui, Dieu patiente, et je dirais, il patiente longtemps. Il patiente, il retient sa main, il retient son jugement, aussi longtemps qu'il y a la moindre chance de voir le pécheur se repentir. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est faible pour autant. Et c'est justement ça, la grande erreur du pécheur. Au lieu de comprendre, comme le dit l'apôtre Paul, que cette patience de Dieu le pousse à se repentir, le pécheur, 9 fois sur 10, conclut de la manière suivante, « Dieu ne juge pas, Dieu est faible. » Comme le dit le livre des psaumes, Dieu ne fait ni bien ni mal. Par conséquent, moi, pécheur, j'aurais tort de ne pas en profiter. Et c'est le psaume 73, le psaume d'Asaph, dont les pieds étaient sur le point de glisser parce qu'il voyait le bonheur et la réussite des méchants. Pourquoi Dieu ne juge-t-il pas et ne condamne-t-il pas le pécheur? Or, dit Paul à ce pécheur, si tu penses que Dieu est faible, tu te trompes. Dieu est simplement patient. Mais Dieu tient les comptes dans le ciel. Et c'est comme un compte en banque que tu alimentes. Un jour, l'échéance arrivera. et tu paieras tout ce que tu dois, intérêt et capital. Dieu te présentera la note. La seule possibilité de voir cette note effacée, c'est le sang de Jésus. C'est que tu te convertisses et que tu te repentes de ton péché. Et voyez-vous, pendant tout ce temps où le Seigneur patiente vis-à-vis du pécheur et par conséquent il retient son jugement, il permet que le pécheur, le méchant, opprime le juste. Et par conséquent que le juste souffre injustement à cause de la patience et de la miséricorde de Dieu envers le pécheur. C'est quelque chose qui est choquant. Et pourtant, c'est quelque chose qui est profondément biblique. C'est pratiquement le thème essentiel du livre des psaumes. Le juste qui crie sa douleur au Seigneur, « Mais Seigneur, mais tu n'interviens pas, tu vois bien que les méchants massacrent de toutes parts. » C'est le cri de Jésus sur la croix. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il semble que Dieu abandonne le juste. Vous avez ça aussi dans la parabole de la pauvre veuve et du juge inique. Cette pauvre veuve qui crie au juge pour qu'il lui fasse justice, et parce que ce juge ne craint ni Dieu ni diable, il refuse de lui donner justice. Or, cette veuve ne se décourage pas pour autant, mais l'enseignement de la parabole est le suivant. C'est vrai que dans les temps de la faim, on pourra penser que Dieu est un juge inique. Dieu, il semblera que Dieu se comporte comme un juge inique. Ses élus, qui sont opprimés par les méchants, crient à lui nuit et jour et Dieu ne leur répond pas. Et ce sera la grande tentation des temps de la fin, de penser qu'effectivement Dieu est injuste. C'est ce que disaient les hommes et les femmes de ce temps. S'il y avait un Dieu, pourquoi de pareilles horreurs arrivent-elles dans le monde ? Où est ce Dieu de justice, soi-disant de justice, qui laisse des Hitler, qui laisse des Mao Tse-Tung, qui laisse des Staline, des Pot Pol et des gens comme cela, des Ahmadinejad, faire ce qu'ils font? Y a-t-il un Dieu de justice? Dieu n'est-il pas un juge inique? Non, répond la Bible. Dieu est tout simplement quelqu'un qui ne veut pas la mort du pécheur et qui lui donne du temps. Et Dieu accepte que le juste souffre injustement à cause de l'amour qu'il a pour les méchants. Après tout, ces justes sont sauvés, ils peuvent souffrir un peu. Seulement, cet amour de Dieu, cette patience de Dieu pour le pécheur a deux limites. Premièrement, lorsqu'il est clair que le méchant ne veut pas se repentir. Lorsqu'il a atteint le point de non-retour, ce qu'ici notre texte appelle le comble. L'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à son comble. Et quand le point de non-retour a été dépassé, Dieu n'a plus aucune raison d'attendre. Et le jugement tombe comme la foudre. C'est ce qui s'est passé lors du déluge, où Dieu a attendu 500 ans de grâce avant de juger la génération de Noé. 500 ans où ils ont été avertis par Noé, le prédicateur de la justice. C'est ce qui s'est passé à Sodome, lorsque Dieu a fait en sorte que Lot avertisse les gens de Sodome de ce qui allait arriver et que les gens de Sodome se moquent de lui. Et quand il était clair que ces gens avaient mis le comble au péché en cherchant à violer les anges, Dieu n'avait plus aucune raison d'attendre. Il a dit à Lot, « Sors rapidement de la ville. » parce que son jugement est imminent. Et lorsque Lot, le juste, le seul juste, est sorti de la ville, la pluie de feu et de soufre est tombée sur Sodome et Gomorre et les a anéantis. Deuxième limite à la patience de Dieu, ce que les justes peuvent supporter. Parce que l'amour de Dieu pour le pécheur ne va pas jusqu'à leur sacrifier les justes. Et quand les justes arrivent à ce stade où aussi ils risquent, comme Asaph, d'être entraîné par l'égarement des impies, Dieu va délivrer les justes. Et qu'est-ce que c'est la délivrance des justes? C'est le jugement des méchants. Voyez-vous, le jugement des méchants, c'est le salut, la délivrance des justes. C'est pourquoi Jésus dira, parlant de son retour, « Les hommes, dans les temps de la fin, rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, parce que les puissances des cieux eux-mêmes seront ébranlées. Mais vous, au contraire, quand vous verrez ces choses arriver, réjouissez-vous, relevez votre tête, parce que ce jugement qui va être terrible pour les méchants sera pour vous votre délivrance et votre salut. » Maintenant, revenons à notre texte, l'iniquité des Amoréens. Les Amoréens étaient un des peuples les plus corrompus de toute l'histoire. Et nous pouvons nous poser la question, quel était le péché des Amoréens? Il y a un texte que l'on lit dans la synagogue le jour du Kippour, c'est-à-dire le jour où le peuple d'Israël fait un bilan, c'est le jour du pardon, où l'on réclame le pardon de Dieu quand le grand prêtre a mené dans le lieu très saint le sang du bouc expiatoire et que le deuxième bouc, vous vous souvenez, était chassé dans le désert. Et ce jour qui est un jour, qui est un appel à la repentance, il y a un texte que l'on lit dans la synagogue, c'est le chapitre 18 du livre du Lévitique, où il est question des pratiques sexuelles contre nature, l'inceste, l'homosexualité, la bestialité et d'autres aberrations du même ordre. Et le Seigneur dit ceci, « Tu ne pratiqueras pas ces toévotes, ça veut dire ces abominations qui sont celles des Cananéens, c'est-à-dire des Amoréens, c'est un mot synonyme. Tu ne pratiqueras pas ces abominations des Cananéens au milieu desquels tu vas habiter. Parce que justement c'est à cause de ces péchés que la terre va vomir ces gens-là. » Ça veut dire que ce sont les péchés des Araméens, c'est justement cela. Dieu promet à Abraham de lui donner le pays promis après en avoir chassé les habitants à cause de leurs péchés, en particulier les vices contre nature qui sont énumérés dans ce chapitre 18 du livre du Lévitique et que nous voyons refleurir malheureusement de notre temps. C'est quelque chose qui est très actuel. Mais à l'heure où Dieu parle à Abraham, dans cette alliance entre les animaux partagés, les Amoréens ne sont pas encore mûrs pour le jugement. Ils ne sont pas encore arrivés au comble du péché. Et par conséquent, Dieu va leur laisser 400 ans de grâce. 400 ans pendant lesquels ils auront la possibilité de se repentir. Et pendant ces 400 ans de grâce, à cause de l'amour que Dieu a pour ces pécheurs que sont les Amoréens, le peuple d'Israël ne pourra pas prendre possession de ce pays et il sera captif. Il va souffrir injustement, je mets injustement entre guillemets, à cause de l'amour de Dieu et de ce temps de patience qu'il donne aux Cananéens. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, mais pourquoi Dieu a-t-il permis l'endurcissement du peuple d'Israël par rapport à Jésus? Or, Paul nous dit quelque chose de très surprenant dans l'Épître aux Romains, chapitre 9. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui a aveuglé leurs yeux par rapport à l'Évangile. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Pour donner pendant ce temps un long temps de grâce aux païens. Pour que les païens aient l'occasion d'entendre l'Évangile et de se convertir jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est un parallèle avec ce passage, le peuple d'Israël a connu l'exil, a connu toutes les souffrances de l'exil à cause de l'amour que Dieu avait pour nous, pour les païens que nous sommes. Et Dieu a permis que son peuple souffre, pas tout à fait injustement, parce que Paul nous montre aussi qu'Israël est aussi responsable de ce qui lui arrive. Mais c'est le parallèle avec ce qui s'est passé lors de l'exil d'Égypte. Tes descendants seront captifs parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à son comble. Et dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc, Jésus nous dit que cet exil d'Israël durera jusqu'à ce que jusqu'à... On dit en hébreu, « Adki itchlemu itotagoyim », c'est le même mot que vous avez ici, jusqu'à ce que le péché des nations soit arrivé à son comble. Jusqu'à ce que les nations soient arrivées à un stade où elles ne supporteront plus l'évangile, comme dit l'apôtre Paul. Elles ne supporteront plus la saine doctrine. Alors Dieu n'aura plus de raison d'user de sa patience. Et le jugement de Dieu viendra. Et en même temps que le jugement de Dieu, ce sera le salut d'Israël. Quand la totalité des païens sera rentrée, tout Israël sera sauvé, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Le Lévitique nous dit, c'est à cause de ces choses que ces peuples vont être chassés du pays qui a été souillé par leurs abominations, car le pays vomit ceux qui le souillent de cette manière. Deutéronome 9, verset 4, « Ce n'est pas à cause de ta justice que tu vas posséder ce pays, c'est à cause de la méchanceté de ses habitants. » Mais ses habitants ne sont pas encore tout à fait au point. Ils ne sont pas tout à fait mûrs pour ce jugement. Alors nous comprenons pourquoi la descendance d'Abraham va d'abord être captive dans un pays étranger. Pourquoi ce pays étranger va-t-il être l'Égypte ? À cette période, il est vrai que les cultes du Moyen-Orient étaient basés sur des cultes orgiaques, où il y avait des rites qui étaient marqués par la prostitution sacrée, à la fois mâle et femelle, ça veut dire hétéro et homosexuel. C'était des cultes avec lesquels la famille d'Abraham, les descendants d'Abraham, étaient confrontés. Et voyez-vous, cette famille d'Abraham, ces descendants d'Abraham, qui vont être le point de départ du peuple d'Israël, Dieu veut en faire en quelque sorte, on pourrait appeler ça une sainte famille. Bon, cette famille, elle a plusieurs branches. Il y a la branche d'Ésaü, il y a la branche d'Ishmaël, un peu plus tôt. Mais finalement, une seule branche de cette famille va rester fidèle à Seigneur pour former la famille. Et Dieu n'a pas voulu que cette famille se souille au contact des Araméens, des Amoréens, pardon. Non seulement Dieu a voulu donner ce temps de grâce aux Araméens, mais Dieu a voulu soustraire le peuple d'Israël à l'influence néfaste de ces Amoréens. Parce que, bien qu'étant des gens qui craignaient Dieu, et qui, comme le dira le Seigneur, Abraham enseignera à ses descendants à garder mes lois et mes ordonnances. Mais les hommes sont les hommes. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai pour les hommes de tous les temps et de tous les lieux. C'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Le peuple d'Israël, la sainte famille, risque elle aussi d'être entraînée par l'égarement des impies au milieu desquels elle va habiter. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le Seigneur dit « Quand vous allez rentrer dans le pays promis sous la direction de Josué, vous chasserez ces gens-là. » Parce qu'ils sont tellement corrompus qu'ils risqueraient de vous entraîner dans leur égarement. Et en particulier, vous prendrez garde de ne pas prendre leurs filles pour vos fils et de ne pas donner vos filles aux fils de ces gens-là, parce qu'ils vous entraîneraient loin des lois de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va faire descendre son peuple en Égypte. L'Égypte, c'est dans la Bible un symbole à la fois de l'oppression, mais c'est aussi un refuge. C'est par exemple là que vont se réfugier les descendants de Jacob. C'est là que plus tard, Jéroboam, qui est persécuté par Salomon, va se réfugier. Et vous le savez, c'est là aussi que Jésus, poursuivi par Hérode, va se réfugier. L'Égypte, ce n'est pas quelque chose qui est entièrement négatif. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dira à Israël, « Tu ne haïras pas l'Égyptien. » parce qu'il est ton frère, et il t'a reçu dans son pays pour te, en quelque sorte, te mettre à l'abri. Et Dieu va faire descendre son peuple en Égypte précisément pour le mettre à l'abri. Et à Jacob, dont nous avons parlé tout à l'heure, dans la deuxième lecture que nous avons faite, le Seigneur dit, « Jacob, ne crains pas de descendre en Égypte, car je serai avec toi, et là-bas, je ferai de toi un grand peuple. Je te ferai descendre et je te ferai remonter. » Nous avons parlé ce matin de cette dialectique de la descente et de la montée. Nous avons dit que quitter le pays d'Israël, c'est descendre. et revenir dans le pays d'Israël, c'est monter. Quand on se rend en Égypte depuis le pays d'Israël, on descend toujours en Égypte. Joseph, on le fit descendre en Égypte. Jacob, ne crains pas de descendre en Égypte. C'est une descente. Et la descente, bien sûr, c'est toujours quelque chose aussi de négatif. Les patriarches et leurs descendants, malgré leur foi, sont des hommes. Et ils risquent d'être contaminés par l'égarement des impies, bien qu'idolâtres. L'Égypte est un pays moins corrompu que le sont les Cananéens. Un pays où il y a une certaine moralité. Et non seulement c'est un pays qui est moins corrompu que celui des Cananéens, mais également c'est un pays qui est le phare de la civilisation de l'époque. C'était la civilisation la plus avancée. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va conduire son peuple dans ce pays d'Égypte. Et c'est là, et là seulement, que va s'accomplir cette promesse qui est faite à Jacob. Là, tu vas devenir un grand peuple. C'était impossible dans le pays de Canaan. Si le peuple d'Israël était resté dans le pays de Canaan, il ne serait pas devenu un grand peuple. Et en emmenant le peuple d'Israël en Égypte, Dieu va limiter le mal au maximum. Il y a un sage d'Israël, il s'appelait Yehuda Lévi, qui a dit ceci. La différence entre Israël et les autres peuples, c'est que les peuples reçoivent leur jugement de l'histoire. Quand un peuple est arrivé au comble de son péché, il descend de la scène de l'histoire et il est éliminé. Où sont les Cananéens aujourd'hui? Où sont les Babyloniens qui aussi pratiquaient ces cultes orgiaques? Où sont même les Romains, les Grecs? Tous ces peuples de l'Antiquité, ces Assyriens qui faisaient trembler le monde ancien, ils ont été éliminés de la face de l'histoire parce qu'ils ont mis à un moment ou à un autre le comble à leur péché. Mais, dit ce même sage, lorsqu'Israël pêche, il est châtié tout de suite. Pour les nations, Dieu attend, dirait un autre texte, qu'ils aient comblé la mesure de leur péché avant de les châtier. Mais Israël est châtié tout de suite. Mais à l'inverse des autres nations, quand Israël est châtié, il n'est pas éliminé. Il demeure comme peuple, et il demeure comme peuple de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle Israël va descendre en Égypte. Et maintenant, je voudrais parler quelques instants de Joseph. Joseph, qui lui aussi va descendre en Égypte, et comme nous avons vu que ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants, nous allons voir que pour Joseph aussi, ce qui lui est arrivé est une prophétie sur ses descendants. Joseph était un des 12 fils de Jacob. Il était le fils de Rachel, l'épouse préférée de Jacob. Il avait un autre frère qui lui aussi était descendant de Rachel, c'était Benjamin. Et parce que ces deux garçons étaient les fils de cette épouse qu'il avait perdue malheureusement, qui était morte, encore beaucoup trop jeune, eh bien, Jacob avait une préférence pour ces deux garçons, et notamment pour Joseph qui était l'aîné. Et la Bible nous dit qu'il lui avait fait une tunique bigarrée, une tunique teinte de différentes couleurs. La teinture dont il est question ici, c'est une teinture qui est tirée d'un coquillage qu'on appelle le murex, qui est un coquillage qui pousse essentiellement sur la côte du Liban, que les Grecs l'appelaient poéni, d'où l'expression Phénicie que l'on a donnée à ce pays. Et le murex est un coquillage qui produit une goutte d'un liquide jaunâtre qui devient violet, bleu, indigo, ça dépend des différentes catégories de ces coquillages. Et pour teindre un vêtement entier, il faut des milliers et des milliers de ces coquillages. C'est-à-dire qu'un vêtement teint, c'est quelque chose qui a plus de valeur que de l'or à l'époque. Vous vous souvenez, c'est ce qui est dit aussi dans le Cantique de Déborah. Est-ce que le Sisera, sa mère, qui ne le voit pas revenir, dit est-ce qu'il n'est pas en train justement de de faire un butin de ses vêtements teints, de l'or, de jeunes filles, etc. Et les vêtements teints étaient particulièrement prisés à cette époque. Et Joseph avait un vêtement de ce type, un vêtement royal. De quoi, bien sûr, susciter la jalousie de ses frères. Et voyez-vous, Jacob avait agi d'une manière extrêmement mauvaise vis-à-vis de ses enfants. Faire des préférences dans une famille, c'est toujours une catastrophe. Et Jacob était tombé dans ce piège. Et ça avait eu deux conséquences. Joseph était devenu imbuvable d'orgueil. Et puis deuxièmement, ses frères ne pouvaient pas le supporter. Non seulement Joseph avait cette tunique bigarrée, mais il était aussi exempt des corvées de ses frères. Le père le gardait auprès de lui et il nous est dit, il rapportait à son père les mauvais propos. Non seulement il était orgueilleux, imbu de lui-même, mais il était rapporteur, tout pour plaire. Alors bien sûr, ses frères ne pouvaient pas le supporter. Et voyez-vous, on verra tout à l'heure que c'est à ça son importance. En hébreu, ça se dit « l'éragel », c'est le mot aussi pour espionnage. Il espionnait ses frères. Et Joseph, pour mettre le comble à toute cette affaire, a eu des rêves qui annonçaient prophétiquement que ses frères allaient lui être soumis, allaient se prosterner devant lui. Là, c'est trop. Ça dépasse toutes les limites. Et voilà, les frères sont allés faire paître les troupeaux de leur père à Dothan. Et Jacob va envoyer Joseph pour voir comment ça se passe là-bas. Et Joseph se met à la recherche de ses frères. Et cette recherche, elle est infructueuse. Et Joseph se prépare à retourner vers son père en disant, « Mais je ne les ai pas trouvés. » Quand je dis, « Un homme le rencontra. » Et il s'adresse à Joseph en disant, « Qui cherches-tu ? » Et Joseph répond, « Je cherche mes frères. Ils sont à Dothan. » Rencontre malheureuse avec cet homme. S'il ne l'avait pas rencontré, il se serait épargné bien des malheurs. Mais voilà cet homme. Qui était cet homme ? On ne le sait pas. Comment savait-il que les frères étaient à Dothan ? On ne le sait pas. Et certains commentaires disent, c'était un ange envoyé par Dieu, qu'il avait mis sur le chemin de Joseph, parce qu'il fallait que Joseph passe par le chemin difficile qui lui était destiné pour deux raisons. D'abord, pour que lui-même soit brisé dans ce caractère mauvais qu'il avait, avant de pouvoir accomplir le plan de Dieu. Et deuxièmement, parce que Dieu savait qu'il y allait avoir une famine terrible. Israël et la famille d'Israël ne le savait pas, mais Dieu le savait. Et Dieu avait préparé un remède, un homme, qui allait être celui qui allait sauver le peuple d'Israël de cette situation-là. Je cherche mes frères. Un homme le rencontra, et Joseph va au-devant de ses frères. Et voyez-vous, quand les frères le voient venir, ils se proposent de le tuer. Et vous avez ici, dans cette histoire de Joseph, les deux mots essentiels dont nous avons parlé ce matin, descendre et monter. Ce sont les deux mots clés du récit. Quand Joseph arrive, on le dépouille de cette tunique bigarrée, qu'on se garde bien sûr, de déchirer, c'est trop précieux. Et on va le faire descendre dans un puits. Un puits heureusement à sec, mais selon la tradition juive, un puits qui était rempli de scorpions et de serpents, et il a fallu que Dieu intervienne pour que Joseph ne soit pas piqué par ces animaux. Et les frères se préparent à festoyer quand ils voient venir une troupe de marchands madianites qui vient de Gilad et qui descend en Égypte. Ils disent, tiens, plutôt que de le tuer, c'est quand même notre frère, il ne faut quand même pas qu'on exagère trop. Eh bien, on pourrait peut-être le vendre comme esclave. On fit remonter Joseph du puits. Il est descendu et il remonte. Et la tradition juive nous dit que Quand Joseph a vu qu'on le remontait de ce puits, alors il a repris confiance, il a repris espoir. Il s'est dit peut-être qu'après tout, les plans de Dieu vont s'accomplir, parce que quand il était au fond du puits, il se demandait, mais Seigneur, que tu m'avais promis, je vais mourir. Et comment les promesses que tu m'as faites vont-elles se réaliser? Et quand on le refait monter du puits, il reprend confiance. Chapitre 39, on fit descendre Joseph en Égypte. Patatras, ça recommence. Au moment où il est pensé remonter, hop, il redescend. Et je dirais, il redescend encore plus bas que lors de sa première descente. Un ensemble de montée et de descente, ou plutôt de descente et de montée. Il arrive en Égypte, où il est acheté par un ministre de Pharaon nommé Potiphar. Et parce que c'est un homme qui craint Dieu, Dieu le bénit. Et non seulement le bénit, mais bénit toute la maison de Potiphar à cause de lui. Vous voyez, les sages ont dit, ça c'est une image d'Israël. Joseph est une image d'Israël. Parce que les montées et les descentes de Joseph sont autant de prophéties de ses différents exils. Mais lorsqu'Israël se trouve parmi les nations, eh bien, il est une bénédiction pour les nations. Dieu bénit les nations à cause de Joseph. Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et dans cette maison où il est descendu, Joseph va monter. Il va être l'intendant de tous les biens de Potiphar. Il va avoir la première place dans la maison de Potiphar. Et à nouveau, Joseph, qui commençait à se désespérer, reprend espoir. Et voilà, juste au moment où il est arrivé à cette position élevée, patatras, nouvelle catastrophe. La femme de Potiphar lui fait des propositions malhonnêtes. Et Joseph, qui craint Dieu, comme il le dit, « Je ne peux pas faire une chose pareille, dit-il à cette femme. Mon maître a une confiance aveugle en moi et je ne peux pas commettre ce grand péché. J'ai tous les droits dans cette maison, sauf bien sûr toi, dit-il à cette femme. » Et Joseph refuse. Et un jour, cette femme lui tend un piège, elle se trouve seule avec lui et à nouveau, elle lui fait cette même proposition malhonnête et Joseph refuse. Alors elle le saisit par son vêtement et Joseph est obligé de s'enfuir. C'est la meilleure chose à faire dans ces cas-là. Il y a des moments où la fuite, c'est le meilleur moyen de se sauver. Sauvez-vous de cette génération perverse. Fuir de Sodome, fuir de toutes les Babylones de ce monde. Joseph fait ça. Mais malheureusement, il laisse son manteau entre les mains de cette femme. Et cette femme ameute tout le quartier. Regardez, regardez cet hébreu, cet esclave hébreu qui est venu pour se jouer de nous. Regardez, il a essayé de me violer. Quel mensonge! Et quand son mari rentre, elle lui tient le même langage. Potiphar connaît sa femme. Il n'est pas dupe. Il ne la croit pas. Pourquoi? Parce que s'il l'avait cru, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait tué Joseph, bien sûr. Mais bon, toutes les apparences sont contre Joseph. Alors Joseph va être mis en prison. Et voilà, il nous est dit, on fit descendre Joseph dans la prison. Nouvelle descente. Il était monté le premier dans la maison de Potiphar. Badaboum. Il retombe encore plus bas que ce qui est jamais tombé dans une prison. Et plus tard, il dira, dans la fosse. C'est comme si c'était dans une prison qui est semblable à celle dans laquelle il s'est trouvé quand il était dans le puits, la fosse. Et là, il va croupir dans cette prison un certain nombre d'années. Jusqu'au moment où deux de ses compagnons de captivité, aussi des ministres du roi, vont avoir des rêves, les fameux rêves qui sont connus, et que Joseph va expliquer. Et à celui qui va sortir de la prison, selon ses rêves, il dit, « Tu parleras de moi quand tu vas sortir de là, pour que je remonte de ce puits, de cette fosse, parce que je n'ai rien fait pour être ici. » Et voilà, Joseph reprend courage et dit, « Cette fois-ci, ça y est, je vais sortir de là. » Et quand il est sorti de prison, l'officier du roi l'oublie et n'en parle plus. Et Joseph va croupir dans cette prison des années et des années. Et il a dû se poser des questions, Joseph, disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça? C'est injuste! Et il nous dit, à la fin, miketz, on dit en hébreu, à la fin, Pharaon eut un rêve. Deux rêves, très exactement. Le rêve des vaches grasses et des vaches maigres, des épis gras et des épis maigres. Et aucun des sages de l'Égypte n'est capable d'expliquer ce rêve. Et alors l'officier qui avait été auprès de Pharaon, de Joseph dans la prison, lui dit, je vais rappeler ce qui s'est passé. Il se souvient de Joseph. Quand j'étais en prison, il y avait un jeune hébreu qui a été capable d'expliquer nos rêves. Et ça s'est accompli exactement comme il l'avait annoncé. Au point où on en est, on peut essayer. Il nous a dit, on fit remonter Joseph de la prison. Après avoir touché le fond de l'abîme, il va remonter au pinacle. Et non seulement il va être capable d'expliquer le rêve de Pharaon, mais de donner des conseils de sagesse quant à ces temps de famine qui vont venir, ces temps d'abondance et ces temps de famine. Et tous les officiers de Pharaon disent, mais il n'y a qu'à donner à cet homme l'administration de l'Égypte. Avec la sagesse qui est la sienne, c'est lui qui est le mieux qualifié pour ça. Et Joseph va devenir le premier après Pharaon. Quelle élévation! Et voilà, les choses vont s'accomplir comme Joseph l'avait annoncé. La famine vient, elle s'appesantit aussi sur le pays de Canaan, sur les pays voisins. Et les frères de Joseph sont dans le besoin. Ils apprennent qu'il y a du blé en Égypte et ils vont descendre en Égypte. Voyez-vous encore le mot « descente » Il va falloir qu'ils descendent de leur piédestal. Nous allons voir que la chute va être rude pour eux. La descente va être rapide. Et voilà donc Joseph qui a oublié la maison de son père, soudain parmi ceux qui viennent pour acheter du blé, reconnaît 10 individus qu'il connaît bien. Tiens, qui voilà? Joseph va-t-il se venger? Non. Il a compris le plan de Dieu. Et il va être un merveilleux collaborateur avec Dieu. Il comprend en un instant le plan de Dieu et la pédagogie de Dieu. Il va être un instrument et un ouvrier avec Dieu pour le salut de ses frères et pour le salut de son peuple. Mais il commence par leur parler durement. Vous êtes des espions, Miraglim. Tiens. C'est exactement ce que ses frères lui reprochaient. Il espionnait. Ça commence déjà à évoquer un certain nombre de souvenirs dans l'esprit de ces garçons. Vous êtes des espions. Oh, mon Seigneur, non. Nous sommes des braves gens, vous pensez? Et comment donc? Et comment qu'ils sont des braves gens? Nous sommes des braves gens. Ah, vous êtes des braves gens. Et ils le croient en plus, c'est ça qui est pire. Et Joseph les interroge, mais qui êtes-vous? Ben, nous sommes 10 frères, fils d'un même père. Nous venons du pays de Canaan. Et puis, nous avons un frère qui a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Puis, un petit frère. Mais comme justement l'autre frère a disparu, notre vieux père, il est attaché à cet enfant. Il ne l'a pas laissé venir avec vous. Ah bon? Ah, très bien. Eh bien, pour que vous me prouviez que vous n'êtes pas des espions et que vous êtes sincères, vous allez ramener votre petit frère. Et à ce moment-là, je saurai que vous êtes des braves gens. Et en attendant, je vais prendre un otage. Le mettre en prison. Siméon. Pourquoi Siméon? Parce que c'est lui qui avait donné le conseil aux autres. Et voilà, donc, ils vont se retrouver dans cette prison, eux-mêmes, 3 jours. 3 jours de prison. 3 jours de méditation, à l'ombre. Et là, soudain, ça travaille là-dedans. Oui, c'est Dieu qui est dans cette affaire. Qu'est-ce qui nous arrive? Et si c'était à cause de ce que nous avons fait à notre frère Joseph autrefois? Ah, ça commence à venir. Et le 3e jour, Joseph vient les faire sortir de prison. Et leur dit, ne craignez pas, je crains Dieu. Le 3e jour, dans la Bible, c'est toujours le jour du salut. Dans le livre du prophète Osée, il nous est dit ceci : revenons à l'Éternel, cherchons à connaître l'Éternel, car il nous a frappés, mais il nous guérira. Le troisième jour, il nous rendra la vie. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, et le troisième jour, ça a été la délivrance. Jésus restera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et le troisième jour, ce sera le jour de la résurrection. Dieu ne laisse pas souffrir le juste plus de trois jours. C'est symbolique, bien sûr. Ça veut dire, Dieu ne laisse pas souffrir le juste plus qu'il est capable de supporter. Et au bout de son épreuve, il y a la délivrance. Joseph l'a expérimenté, il sait de quoi il parle. Allez, retournez vers votre père avec du blé. Mais je garde Siméon en otage, jusqu'à ce que vous reveniez. Le retour n'est pas gai, hein. Il remonte dans le pays de Canaan, mais ce n'est pas gai. Qu'est-ce qu'on va dire au père ? Où est Siméon ? Dit Jacob. Ah, papa, si tu savais ce qui nous est arrivé. Quoi ? Oh, une histoire de fou. Le maître de l'Égypte, là-bas, nous a pris pour des espions. Il a gardé Siméon et il veut qu'on ramène Benjamin. Ah, pas question. Pas question. Tant pis pour Siméon, mais jamais Benjamin ne descendra avec vous parce que j'ai peur qu'il lui arrive ce qui est arrivé à votre frère. Surtout que Jacob, il connaît ses enfants. Cette histoire d'une bête féroce qui avait dévoré Joseph, il l'a cru à moitié. Il s'est dit, ces garçons-là sont bien capables d'être ceux qui ont fait le coup. Et si je leur confie Benjamin, est-ce qu'ils ne vont pas lui faire la même chose ? Est-ce qu'ils ne sont pas jaloux de Benjamin comme ils ont été jaloux de Joseph ? Et puis le temps passe, et la famine continue à s'appesantir. Les frères de Joseph disent, papa, tu sais, il n'y a pas de solution, il faut qu'on descende en Égypte. Mais il faut qu'on descende avec Benjamin. Pas question ! Ah oui, mais tu vois bien qu'on est en train de mourir. Pas question. Je ne vous laisse pas aller avec Benjamin. Eh bien, le maître de l'Égypte nous a dit que si on ne vient pas avec Benjamin, on ne verra même pas sa face. Ce n'est pas la peine qu'on descende. Écoute, dit Judas. Judas, c'est celui qui avait essayé de sauver Joseph. Hein. Écoute, confie-le-moi. Je me porte garant de ce garçon. Je suis prêt à donner ma vie plutôt qu'il lui arrive quelque chose. Bon, dit Jacob, s'il n'y a pas de solution autre que celle-là, ok. Et puis, à la grâce de Dieu, si Benjamin doit mourir, eh bien qu'il meure, tant pis. Et c'est ainsi que les frères descendent avec Benjamin. Quand ils ont remonté, qu'ils sont arrivés à l'hôtel, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Leur argent dans le sac. Alors ils arrivent devant Joseph, mais ils arrivent comme ça. Monseigneur, Joseph a vu Benjamin avec eux. Il dit, tiens, ça se présente pas mal. Monseigneur, on est venu acheter du blé l'autre jour, tu vois, puis on revient avec nos petits frères, comme tu l'avais demandé. Et puis on a trouvé l'argent dans les sacs. Alors on rend cet argent parce que nous sommes des honnêtes, des braves gens. Et puis on a porté de l'argent pour acheter le nouveau blé qu'on va te prendre. « Ne vous inquiétez pas, c'est le Seigneur qui a envoyé son ange devant vous et qui a remis votre argent. Votre argent m'irait arriver par un autre moyen. » Et on fait sortir Siméon de la prison. Et puis Joseph dit à ses intendants, « Prépare un bon repas, ces gens vont manger avec moi à midi. » Et à midi, on les fait rentrer dans le palais de Joseph. Tapis rouge, l'orchestre est là, enfin tout le grand tralala, quoi. Ouh, les frères de Joseph, il en fait un peu trop, celui-là. Il a une idée derrière la tête. Mais on les fait installer. Benjamin est le dernier. Bien sûr, il est plus petit, selon l'ordre des choses. Mais il reçoit toujours une double part. Un petit test que Joseph fait. Est-ce que les frères ont encore la même jalousie vis-à-vis de Benjamin que celle qu'ils avaient à côté de moi ? Oh, ils ne vont pas le manifester, mais à leur visage. Comment ça se fait qu'il a deux parts, celui-là ? Mais non, ça n'a pas l'air de les déranger, les frères. D'accord, dit Joseph, bon signe. Et puis donc, une fois que c'est fait, eh bien, il leur dit, vous pouvez aller, Dieu vous bénisse. Voilà, vos ânes sont chargés de blé, partez. Ouf, merci Seigneur. On s'en tira bon compte. Quand ils sortent de la ville, oh, ça s'est bien passé quand même. Ça s'est mieux passé que ce qu'on avait pensé. Ils ont fait quelques kilomètres quand soudain quelqu'un court devant eux et dit donc vous là-bas, arrêtez un peu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez rendu à mon Seigneur le mal pour le bien qu'il vous a fait? Il vous a bien reçu, n'est-ce pas? Oh oui, formidable. Pourquoi vous avez volé sa coupe? Nous voler sa coupe? Mais tu n'y penses pas. On a ramené l'argent. Il n'était pas question qu'on vole la coupe. Ok, je vois. Est-ce que je peux vous fouiller vos sacs? Mais bien sûr, tu peux y aller, tu trouveras rien. Ils trouvent l'argent d'abord. Ah, ça recommence cette histoire d'argent. Et quand ils arrivent dans le sac de Benjamin, la coupe s'y trouve. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ils déchirent leurs vêtements. Surtout que Benjamin, c'est certainement pas non plus un parangon de vertu. Les frères se disent, il était bien capable de faire ça. Ok, dit l'intendant, très bien, Benjamin, tu viens avec moi, tu vas être mon prisonnier, les autres tournez en paix vers votre père. Ça, c'est le test. Est-ce qu'ils vont accepter ou pas? Et les frères disent, d'un commun accord, non, c'est pas question, on va revenir discuter avec le maître de l'Égypte. Et Joseph les accueille, dit, vous n'avez pas honte? Moi, que je vous ai traité comme je l'ai fait, vous volez ma coupe? Alors Judas comprend que là, c'est la main de Dieu. Il s'approche, nous est-il dit, Judas, et dit, écoute-moi, nous avons un vieux père. Il a perdu le fils aîné, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Son âme était attachée à ce garçon. Et depuis qu'il a disparu, c'est son frère, le jeune Benjamin, qui a pris sa place dans son cœur. J'ai juré en disant que je me faisais porter garant, que je reviendrai avec Benjamin. Et maintenant, si je reviens vers mon père, que le garçon n'y est pas, il va en mourir, il ne supportera pas le choc. Alors je ne veux pas voir ce malheur de mon père. Garde-moi à la place de Benjamin. Il nous a dit, Joseph ne pouvait plus se contenir. Il dit à tout le monde, sortez de là. Il ne veut pas que les Égyptiens voient la honte de ses frères quand il va se reconnaître à lui. Il dit, approchez-vous de moi. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis Joseph, votre frère. Mais voyez-vous, c'est la transformation. Pendant toute cette longue descente que les frères ont connue, eh bien, ils sont arrivés au fond d'eux-mêmes. Et là, c'est la vraie repentance. Pas la repentance artificielle. Il a fallu tout ce traitement difficile et douloureux pour qu'enfin les frères de Joseph se tournent vers lui. Est-ce que vous comprenez la signification prophétique de ce qui se passe? Joseph est devenu le maître de l'Égypte. Et par sa sagesse, son élévation à la suite de tout ce qu'il avait souffert, il est devenu le sauveur d'Égypte et d'un peuple nombreux. Et ses frères l'avaient rejeté. Ses frères ne le reconnaissaient pas. Il lui dit, à la fin, Miketz, Joseph se fait reconnaître à ses frères, loin des Égyptiens, pour qu'ils ne voient pas sa honte. Vous reconnaissez que Joseph est un type de Jésus. Jésus reçu par les nations, dont il a été le moyen de salut, l'instrument de salut, jusqu'à ce que l'iniquité des nations atteigne son comble, comme l'iniquité des Amoriens devait atteindre son comble. Et à ce moment-là, eh bien, de la même manière que le peuple d'Israël est entré en possession de son héritage, eh bien, Jésus se fera reconnaître par ses frères, comme Joseph s'est fait reconnaître par ses frères. Après toute cette longue période de tribulation que le peuple d'Israël aura connue jusqu'au temps de la fin. Et alors, ce sera la réconciliation. Il y a aussi une autre image que l'on trouve au travers de cette rencontre entre Joseph et Judas. Judas représente le peuple juif. Les juifs, ce sont les judéens. Ça veut dire les descendants de la tribu de Judas. Et Joseph était l'ancêtre de la plus grande des tribus de ce qu'on appelle le royaume du Nord, les 10 tribus du Nord. Ces 10 tribus qui ont été dispersées et qu'on appelle pour cette raison les 10 tribus perdues. Et ce texte de la rencontre entre Judas et Joseph est considéré par la tradition juive comme une prophétie de ce qui s'accomplira au temps de la fin, quand ces tribus perdues, comme Joseph était considéré comme perdu par Judas, réapparaîtront et se réuniront au peuple d'Israël. Et si j'avais le temps, je vous expliquerai que ce miracle est en train d'avoir lieu. Ces 10 tribus que l'on croyait des tribus perdues sont en train de reparaître de notre temps et déjà 3 de ces tribus sont en cours de rassemblement sur la terre d'Israël. Je vais en Israël le mois prochain et je vais enquêter sur ce point-là pour savoir où l'on en est. Les dernières informations que j'ai à ce sujet, je suis ça de très près, date de 2 ans maintenant et je vais refaire le point. Où est-ce qu'on en est? Et les rabbins ont dit, quand les 10 tribus réapparaîtront au temps de la fin? Alors on saura que ce sera le dernier signe avant la venue du Messie. Et ce miracle de la résurrection des 10 tribus perdues, la plupart des chrétiens ignorent qu'il est en train de se réaliser, ce miracle-là. Et les rabbins ont dit, pendant que les tribus perdues se rassembleront sur la terre d'Israël, alors le Messie viendra. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voyez-vous, rencontre entre Judas et Joseph, ça veut dire le rassemblement du royaume du nord et du royaume du sud pour n'en former qu'un seul. Et en même temps, reconnaissance de Jésus par la tribu de Judas et par les frères de Jésus. Amen. Ce qui est arrivé au patriarche est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants. Monter et descendre. Le peuple d'Israël, comme Jésus aussi, connu des montées et des descentes. Jésus est descendu du ciel et il a pris une chair semblable à la nôtre. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Le peuple d'Israël, comme les frères de Joseph, a aussi connu des montées et des descentes. Des moments où se retrouvant à l'aise dans des pays comme par exemple l'Allemagne, l'Espagne, au Moyen-Âge. L'Espagne, c'était, comme on le disait dans ce temps-là, la nouvelle Sion. Nous avons perdu la belle Sion, mais nous avons trouvé l'Espagne, une terre de consolation, disaient les Juifs. Et quand ils étaient prospères dans ce pays, quand ils étaient parmi les premiers, il y avait par exemple des médecins juifs qui étaient les médecins des rois d'Espagne. Ils étaient les banquiers des rois d'Espagne, c'est eux qui ont financé la découverte de l'Amérique. 1492, expulsés d'Espagne, dépouillés de tous leurs biens. Quelle chute, quelle descente. Alors on va en Pologne, en Allemagne, dans tous les pays de l'Est. Et là c'est pareil, en Pologne, les Juifs ont prospéré. En Allemagne, ils ont prospéré. Et lorsque Hitler est arrivé au pouvoir, qu'on a commencé à les avertir que ça allait peut-être se gâter. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous sommes Allemands depuis des générations. La plupart d'entre nous, nous avons fait la Première Guerre mondiale. Hitler n'osera jamais. Et oui, il a osé. Quelle chute, quelle descente. Voyez-vous, c'est une histoire prophétique. L'histoire se répète. Ce qui est arrivé au patriarche est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants. Et maintenant, nous arrivons au terme de cette histoire. Le moment où le péché des nations étant arrivé à son comble, le péché des Amoréens étant arrivé à son comble, le jugement de Dieu va tomber. Et de la même manière que le jugement de Dieu sur les Amoréens avait été la délivrance d'Israël, Israël avait été l'instrument d'ailleurs de ce jugement. Il devait chasser les Cananéens. De la même manière, quand le Seigneur se fera reconnaître à ses frères juifs, ce sera le jugement des nations. Et c'est la raison pour laquelle, réalisant que nous sommes dans ces temps-là, il faut que nous soyons extrêmement attentifs. On peut penser comme on le pense dans beaucoup de nos églises aujourd'hui, « Oh, mais ce n'est pas encore tout de suite. Jésus n'est pas prêt de revenir. parce que les prophéties ne sont pas encore toutes accomplies comme on le pense, parce que ça fait 2000 ans que ça dure, et ça peut encore durer encore des siècles et des siècles. Non. C'est un mensonge, c'est une illusion. Nous arrivons dans les dernières minutes de l'histoire. Alléluia. Et il ne faut pas manquer le rendez-vous. Quand le maître de la maison se sera levé, qu'il aura fermé la porte, ce sera trop tard. Et c'est maintenant qu'il faut, justement, être comme ses frères de Joseph, être ceux qui descendent au fond d'eux-mêmes, en disant « Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Descends au fond de moi-même, que je descende dans les profondeurs de mon être, pour voir si je marche dans tes voies, et fais-moi remonter sur le chemin juste, le chemin qui sera le chemin de l'éternité. » Descendre, descendre de nos piédestals, descendre de toutes nos sécurités, descendre de nos illusions pour nous mettre en route et remonter. Comme le disait le Seigneur aussi à Jacob, tu descendras en Égypte, mais tu remonteras. Tu remonteras dans ce pays parce que je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'aie accompli tout ce que je t'ai promis. Nous vivons ces temps qui sont ceux où le Seigneur veut nous faire descendre de toutes nos sécurités humaines pour que nous puissions monter, remonter vers le pays promis, pour pouvoir obtenir aussi les promesses que Dieu a faites à son peuple d'Israël et à son peuple qui est l'Église. Prions maintenant.
Amen.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces exemples qui sont des exemples qui nous parlent et qui nous parlent dans ces temps qui sont les temps de la fin. Seigneur, nous voulons te demander que nous ne soyons pas de ceux qui s'illusionnent comme les frères de Joseph s'étaient illusionnés, qui s'enveloppent dans cette idée qu'ils sont des braves gens, qu'ils n'ont besoin de rien, comme l'église de Laodicée, qui disait « Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. » Et tu as voulu apprendre à ses frères, Seigneur, qu'ils étaient pauvres, misérables, aveugles et nus, et qu'ils avaient besoin, Seigneur, de toi, qu'ils avaient besoin de ton pardon, qu'ils avaient besoin de ta grâce, qu'ils avaient besoin de se repentir. Seigneur, que nous descendions de toutes ces piédestal que nous nous sommes fabriqués peut-être comme l'église de Philadelphie, de Laodicée, Seigneur, et que nous acceptions de descendre au fond de nous-mêmes pour que toi, tu nous élèves. Tu nous dis, Seigneur, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Le temps convenable, c'est maintenant, Seigneur, ce temps de ton retour. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que nous vivons ces derniers temps. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser abaissé par toi pour ensuite que tu nous élèves, comme tu l'avais fait pour Joseph, comme tu l'avais fait pour les frères, comme tu le fais pour le peuple d'Israël, et comme tu veux le faire pour ton Église dans ces temps qui sont les derniers, au nom de Jésus. Amen.